Bien, bonjour à tous pour cette table ronde. Aujourd'hui, nous allons débattre de l'hystérie. Donc, le débat va se diviser en deux parties. Tout d'abord, l'hystérie collective dans la population pré-romantique, c'est-à-dire avant le 18e siècle et le 19e siècle, donc pré-Polidori, pré-Le Fanu et autres. Et ensuite, nous débattrons de l'hystérie individuelle sur la littérature plus contemporaine. Donc aujourd'hui, nous avons mademoiselle Sophie Dabat. Donc Sophie Dabat, qui est avec nous. Nous avons Morgane Cossarieux, qui est ici également. Nous avons Cécile Guillot, qui est à nos côtés. Et monsieur Jean Marini, que nous ne présentons plus. Parce que de toute façon, il est toutes les tables rondes. Donc voilà. Alors pour parler donc, de l'hystérie collective, tout d'abord, il faut définir l'hystérie. Suivant ces deux principes, c'est-à-dire l'hystérie collective et l'hystérie individuelle. Et pour ceci, on va passer la parole à mademoiselle Cécile Guillot.
Alors, c'est vrai que le terme hystérie de nos jours. C'est bon, on m'entend ? Oui. Donc, de nos jours, l'hystérie, c'est un terme qui est un peu utilisé à tort et à travers. Donc, quand quelqu'un parle fort ou un peu exubérant, on va dire voilà, c'est une hystérie. Alors que le mot hystérie, définit une maladie mentale précise. Donc il faut revenir au temps de Freud, où en fait, quand il a reçu ses premières patientes hystériques, c'était des jeunes femmes qui présentaient des symptômes, on va dire des choses corporelles, des paralysies faciales, paralysie des membres, évolution des yeux, des choses comme ça, que les médecins ne pouvaient pas expliquer. Biologiquement, elle n'était pas malade et elle n'aurait pas dû présenter ses symptômes. Donc, en s'occupant d'elle, Freud s'est rendu compte que le problème venait de leur psychisme. Et sa première théorie était que les hystériques avaient en fait vécu un traumatisme sexuel. Ensuite, il s'est rendu compte que non, certaines parfois, mais c'était surtout un problème au niveau des fantasmes sexuels. Et donc déjà, on peut dire que l'hystérie, c'était surtout la jeune femme qui avait un peu des problèmes de refoulement au niveau de ses pulsions naissantes, puisque c'était souvent des adolescentes, des femmes assez jeunes.
Mais là, on est sur l'hystérie individuelle.
Oui, là, on est sur la maladie hystérique, qu'est-ce que c'est. Et donc, théâtraliser finalement le corps, inventer, c'est pas vraiment le terme, mais des symptômes. Et du coup, c'est vrai que pour faire le lien avec les vampires, on pensait à Lucie dans le cœur, qui pourrait être vue comme une hystérie finalement. S'il n'y avait pas eu de vampire, on peut dire c'est une hystérie. Donc, après, pour ce qui est de l'hystérie collective, en fait, ce terme. On se réfère à tout ce qui est effet de groupe, effet de masse, donc là on est plus vers la psychologie sociale, où les expériences, surtout dans les années 60, ont démontré que finalement un groupe, c'était pas la somme de toutes les personnes qui le constituent, mais c'était vraiment une entité à part entière. Donc c'est comme si le fait d'être en groupe a annihilé en quelque sorte notre volonté, notre psychologie, notre personnalité. Une nouvelle personnalité émergée finalement, et ça pouvait expliquer tout ce qui était réaction extrême des groupes, phénomène d'hystérie collective, et moi au niveau des vampires, du coup. Et ce qu'on a pu voir aussi pendant les guerres, par exemple, d'autres expériences qui ont montré que si quelqu'un est en danger, ben, finalement les groupes ne réagissaient pas, alors qu'une personne seule serait intervenu, mais le groupe, restait figé, donc c'est un peu ce phénomène-là de la psychologie sociale.
D'accord.
Donc en fait, on va pouvoir revenir donc, à la division de la table ronde. Donc la première partie sur le vampire et l'hystérie collective, ou la démence collective, pré-Le Fanu, donc avec la découverte lorsque l'on creuse une tombe de mâchouilleur de linceul, c'est-à-dire de linceul érodé autour de la bouche, ou même le phénomène de houppir, où différentes tendances, on va dire, sur les anciennes divinités, telles que l'Élite, l'Armia, les Striges et autres. Donc pour ça, M. Marini va nous expliquer en fait ce que peut donner l'hystérie collective pré-littéraire.
Alors, en fait, moi je ne me suis pas tellement penché sur le problème de l'hystérie en tant que telle, mais il va de soi que la croyance au vampire, c'est quelque chose qui est très très ancienne et qui est aussi ancienne que l'humanité. Et ça se traduit évidemment par une fascination au sang. Ça se traduit aussi par un comportement tout à fait particulier, tout à fait agressif. Et dans les cas d'hystérie collective, on sait que par exemple, dans les pays d'Europe centrale, la présence d'un vampire était plus ou moins reconnue, il y avait véritablement un phénomène de masse qui faisait que la population entière d'un village était mobilisée et on pensait que finalement tous les morts plus ou moins suspectes pouvaient relever du vampirisme. Et en particulier, lorsque un vampire était détecté dans un village, on faisait parcourir le cimetière par un adolescent entièrement nu sur un cheval totalement noir ou totalement blanc, et si le cheval se cabrait devant la tombe, il y avait la preuve qu'il y avait la présence là d'un vampire. Donc ces phénomènes d'hystérie collective coïncident généralement avec les grandes épidémies de peste. Parce qu'il y a eu une véritable terreur de l'épidémie. Et lorsqu'il y avait une épidémie de peste, évidemment, on se hâtait d'enterrer les gens, soit de brûler les corps, soit de les enterrer de les mettre dans des fosses communes, soit de les mettre dans des tombes. Et malheureusement, on n'attendait pas que véritablement la mort clinique fait son effet, si bien qu'il arrivait parfois que les malheureux qui n'étaient pas encore morts se trouvent dans une fosse commune. Lorsqu'on ouvrait une tombe, lorsqu'on ouvrait un tombeau au bout de quelques jours pour mettre une nouvelle fournée de cadavres, si j'ose dire, eh bien, on s'apercevait que ceux qu'on avait déposés du jour avant étaient couverts de sang. Pourquoi ? Parce que les malheureux s'étaient débattus dans leur tombe, s'étaient infligés des blessures, mais on s'imaginait qu'ils régurgitaient le sang qu'ils avaient bu. Et donc il y avait un phénomène véritablement de terreur. Vous voyez, on appelait ça le vampirisme. Et c'est ainsi que, généralement, dans ces cas d'épidémie, on donnait une explication surnaturelle en disant que c'était des morts vivants, c'était des vampires.
L'archéologie actuellement, d'ailleurs, traite énormément de ça parce qu'on retrouve de plus en plus de tombes possédant des squelettes avec une brique dans la bouche. C'est le cas notamment en Pologne, en Hongrie, on a eu le cas des vampires de Venise. Pour le cas des vampires de Venise, il s'agit de fosses creusées, recreusées après la bataille de Lépante par simplement des personnes qui avaient été faites prisonnières et qui recreusaient des fosses communes de la peste. Et donc à partir de là, on retrouvait justement des gens qui s'étaient débattus, et par crainte que ce soit des vampires, leur ont glissé des briques dans la bouche. Ça, c'est pour le cas des vampires de Venise. Mais ça, on retrouve ça un peu partout à travers l'Europe. On trouve ça en Écosse, on retrouve ça en Pologne, en Hongrie, on a retrouvé ça aussi en Russie. On n'a pas retrouvé ça en France, par contre. Mais ça varie entre la brique et la pierre. La pierre, actuellement, c'est uniquement en Écosse. Par contre, la brique, c'est partout dans l'Ouest de l'Europe. Donc effectivement, à partir de là, la science démontre réellement que la crainte du vampire est quelque chose d'ancré dans l'humanité depuis son origine. Les deux mouvements migratoires vampiriques, celui de l'Inde et celui de l'Europe du Nord, ont amené cette même crainte. Et étonnamment, ont amené la même résolution à cette crainte, c'est-à-dire traiter le corps d'une façon différente pour pouvoir le séparer en plusieurs morceaux, pour, on va dire, dispatcher les effets maléfiques. Et quels ont été pour vous les différents traitements de ce corps pour pouvoir justement éviter le maléfice qui va avec?
Alors, le traitement posthume, en fait, la façon Bah, on sait que dans le dans les légendes et dans les traditions d'Europe centrale, il est absolument nécessaire d'une part de décapiter le cadavre, ensuite de le de l'incinérer. Alors d'abord, évidemment, il y a ce qu'on appelle la grande réparation, c'est-à-dire qu'on doit planter un pieu dans le cœur de du vampire en une seule fois. Parce que si on s'y prend en deux fois, on risque de le ressusciter. Donc il faut donner un grand coup, et alors c'est pas avec n'importe quel bois, c'est avec le bois soit de la croix du Christ, soit de la couronne d'épines du Christ. Donc c'est un bois particulier qui a une valeur symbolique particulière. Et lorsque on a transpercé le cœur du vampire, on doit normalement lui mettre soit une pierre, soit un extrait de la Bible, soit toute autre chose dans la bouche du vampire pour empêcher son âme de réintégrer le corps. Donc il faut véritablement tout un rituel. Ensuite, on décapite le vampire, on brûle le corps et la tête séparément, et on doit disperser les cendres aux quatre vents pour ne pas qu'elles puissent se reconstituer sur place. Donc il y a tout un rituel qu'on retrouve dans tous les pays, dans les Balkans, en Pologne, en Hongrie, en Russie, on retrouve exactement le même rituel.
Et effectivement, on retrouve aussi, pour preuve de cela, une bulle de Benoît XIV qui interdit aux prêtres polonais de se faire de l'argent sur ce genre de rituel, parce que à une certaine époque, ça rapportait tellement de définir un cadavre comme vampire que les prêtres se sont jetés dessus pour se faire plus d'argent. Et Benoît XIV a été obligé d'intervenir pour dire stop, on arrête. Donc ça, c'est pour simplement la définition du vampire pré-littéraire. Mais comment en est-on arrivé à une hystérie collective autour des vampires? Là, vous avez défini pour les pays de l'Est, mais pour, par exemple, les pays d'Écosse, qui sont une autre type de migration, comment se fait-il que pour un autre type de population, on atteigne la même type d'hystérie?
Oui, alors là, je n'ai pas de lumière particulière sur ce plan, mais ce qui m'a toujours extrêmement surpris, c'est que dans les chroniques anglaises en latin du XIIIe siècle, on trouve énormément d'occurrences de morts vivants qu'on n'appelle pas des vampires, parce que le mot n'a été inventé, comme vous le savez, au XIXe siècle, donc c'est un terme tout à fait récent, le terme vampire. On préférait le terme de vampirus, le cadaver vampirus, c'est-à-dire le cadavre, vampirus, cadaver sanguisugus, c'est-à-dire le cadavre sanscule, en quelque sorte. Et on trouve effectivement des cas d'hystérie collective à propos de ces occurrences, non seulement en Écosse, mais aussi en Angleterre. En Angleterre, au pays de Galles. Et ce qui est très curieux, c'est que l'Europe continentale semble totalement préservée de ce phénomène. Donc, personnellement, je ne suis pas sociologue. C'est un problème qui m'interpelle quelque part, comme on dit, mais pour laquelle je n'ai pas trouvé véritablement d'explication. En revanche, j'ai une théorie. Tout à l'heure, on disait que, assez curieusement, le vampire se limite à une aire géographique qui se trouve à l'est de la France, enfin de l'Europe occidentale. Pourquoi? Eh bien, mon explication, qui vaut ce qu'elle vaut, je ne sais pas si elle est fondée, c'est que l'Église catholique et les églises protestantes ont été extrêmement sévères pour lutter contre les superstitions relatives aux vampires. Alors que les églises orthodoxes, les églises de rite russe ou de rite grec, ont assez curieusement intégré les pratiques anti-vampiriques dans leur liturgie. C'est-à-dire que les popes récitaient des prières contre les vampires, ce qui est absolument impensable dans l'optique du christianisme ou du protestantisme. Et puis, il faut dire aussi qu'il y a eu un autre phénomène qui a joué un rôle de censure, c'est l'Inquisition, bien sûr. À partir du moment où l'Inquisition poursuivait tous ceux et brûlait tous ceux qui colportaient des superstitions, il était très dangereux de parler de mort-vivant, de parler de... Et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles le phénomène du vampire est inconnu dans l'Europe, en dehors de l'Écosse et de l'Angleterre. Il y a quelques cas de vampirisme en France, mais ils sont très très rares, alors que les loups-garous, ça ne pullule.
En fait,
j'avais juste un petit rajout à faire, parce qu'en effet, en France, on n'a pas eu vraiment de phénomène d'hystérie collective à propos des vampires. Mais on a eu par contre ces phénomènes à propos des sorcières. Et peut-être que les chasses aux sorcières, ce n'est qu'une théorie, ont fait en sorte d'éliminer tous les gens qui pouvaient colporter justement ces rumeurs de vampirisme. Et par contre, on avait quand même la peur de la mort, une peur panique de la mort, qui faisait que les gens avaient tellement peur d'être enterrés vivants, comme c'est arrivé lors des épidémies, qu'ils faisaient mettre des petites clochettes, quand ils avaient les moyens, à l'extérieur de leur tombe, au cas où, si jamais, ils se réveillaient dans un cercueil, ce qui n'est pas grave, ils puissent faire ding-ding-ding et appeler « Youhou, venez me chercher !» Parce que sinon, ça pouvait faire peur.
Alors effectivement, il faut savoir que le fait de se réveiller en fait, après la mort n'est pas rare, même actuellement. Puisqu'il y a différents cas, mais même en France, à Lyon, à l'Institut médico-légal, des gens se réveillent juste avant l'autopsie, ça arrive assez souvent. Non, effectivement. Il y a eu le cas récemment dans les journaux du bébé qui s'est réveillé après une noyade confirmée. Et ce qui peut corroborer en fait la théorie de Jean Marini sur l'Inquisition, c'est qu'effectivement l'Inquisition et les bûchers ne concernent que la France, l'Espagne, le Portugal, la Suisse et le début de l'Allemagne, uniquement. Donc ça n'a pas touché l'Europe de l'Est. Donc à partir de là, le vampirisme a pu se développer. Ça, c'est vrai. Donc on peut donc prétendre que l'hystérie collective du vampirisme, déjà, n'est pas propre au vampirisme. Elle est propre simplement à certaines mythologies, on va dire, occultes. Donc les sorcières, les vampires, les loups-garous. Cette hystérie a amené la représentation et l'image que se sont faites les auteurs du 18e et 19e siècle de cette hystérie a pu amener le début du mythe de l'écriture du vampire au 18e et 19e siècle.
Est-ce que vous souhaitez intervenir sur le sujet?
Peut-être. Oui, il y a une chose aussi sur laquelle je voudrais rebondir, c'est que, par exemple, ce qui m'a toujours fasciné, c'est que le terme générique pour vampire en langue roumaine, c'est strigoi. Or, strigoi, évidemment, c'est bien les striges de l'Antiquité latine, mais on sait aussi qu'en italien moderne, striga, c'est une sorcière. Donc, il y a un lien entre la croyance aux sorcières et la croyance aux vampires. Ça,
De toute façon, la division entre vampires et sorcières est extrêmement ancienne, alors que récemment, ne serait-ce que Jules Bois, dans son livre sur le satanisme et la sorcellerie, les rassemble totalement, que Huysmans, dans Là-bas, les rassemble, que Anne Rice, effectivement, que Dacier, dans L'humanité posthume, aussi les rassemble. En fait, la division vampire-sorcière est très fine, très très fine. Donc là, en fait, on va en arriver à un point où il va falloir, par contre, définir le terme de vampire. Parce que vampire n'a pas toujours eu la même signification suivant les époques. Donc si on a défini une hystérie collective pour le vampire, juste un instant, pour le vampire non littéraire, mais plus historique, puisque là c'est on parle de choses qui ont été retrouvées dans les manuscrits monastiques et autres, il va falloir définir quel était ce personnage du vampire. Parce que ce n'est pas le même. Donc simplement, on va si vous pouvez nous définir la différence entre le oupire, le vampire et...
Alors, mon ami Jacques Finet, qui devait participer à notre salon du vampire, s'il était là, dirait que pour qu'il y ait vampire, il faut que trois conditions soient réunies. Le vampire, tout d'abord, est un mort-vivant, parce que tout le monde le sait. La deuxième condition, c'est qu'ils sucent le sang de ces victimes. Et la troisième condition, c'est que les victimes du vampire deviennent elles-mêmes vampires. Donc c'est à partir du moment où ces trois conditions sont réunies qu'on peut parler de vampire. Si bien que mon ami Jean-Claude Aguerre, par exemple, considère que le vampire n'existe qu'à la fin du XVIIIe siècle, parce que c'est à la fin du XVIIIe siècle que ces trois conditions sont réunies. Il appelle tout ce qui est antérieur, il parle de proto-vampire. Pour lui, donc ce sont les trois. Donc les oupires ne possèdent que deux des caractéristiques que j'ai définies.
Donc en fait, les oupires à la base ne sont que la présence d'un.
En fait, il faut savoir que pendant très longtemps, les oupires ou les proto-vampires, comme vous dites, c'était simplement quelqu'un de la famille qui revenait, s'asseyait par exemple à côté d'un vivant, et peu de temps après, le vivant était décédé. Pendant très longtemps, notamment dans la mythologie humaine, le vampire c'est ça, c'est rien d'autre. Donc du coup, quand on parle de vampire roumain, c'est une hérésie totale, parce que ça n'existe pas. Le vampire roumain ne juge pas de sang. Donc quand on parle de Vlad Tepes, par exemple, en prétendant que c'est le premier vampire et autres, c'est, historiquement parlant, c'est une hérésie complète. C'est simplement un mythe littéraire et rien d'autre.
D'ailleurs, je ne vous conseille pas, si vous allez en Roumanie, de parler de Vlad Tepes comme l'ancêtre des vampires. Hein, parce que pour le Roumain moyen, Vlad Tepes est un héros national. Hein, c'est lui qui a réussi à éjecter les Turcs du territoire roumain, et on lui a érigé partout des statues. Hein. Vous savez que Ceausescu, qui comme Staline voulait mettre en évidence l'héroïsme du passé roumain, c'était considéré toujours Vlad Tepes comme le libérateur de la Roumanie. Hein. C'est lui en particulier qui a fait ériger ces statues. Et le même Ceausescu interdisait absolument que toutes les superstitions relatives aux vampires puissent circuler. Donc il y a tout un rayon à la bibliothèque de Bucarest, la bibliothèque, qui était absolument interdit, sauf aux chercheurs. Il y a une carte de chercheur pour pouvoir accéder à cette salle, parce que le régime voulait absolument ignorer. Je vous conseille d'ailleurs un ouvrage qui est tout à fait passionnant, « Que sont les vampires devenus ?» de Ioana Andreescu. C'est un ouvrage qui est sorti dans les années 90, je ne sais plus exactement la date, où elle s'est promenée en Roumanie sous la période de Ceausescu, sous les époques de Ceausescu, avec un agra. Elle a interrogé des villageois et elle courait des risques énormes. Parce que si elle s'était fait arrêter, elle y serait restée. Donc elle avait un avantage, c'est qu'elle était roumaine, elle était française d'origine roumaine, elle parlait parfaitement roumain. Et dans cet ouvrage, ce qui est tout à fait surprenant, c'est qu'on s'aperçoit que les croyances aux vampires n'étaient pas, dans les années 90, n'étaient pas encore totalement éradiquées, et que dans certaines régions reculées, on croyait fort aux vampires. Il y avait toujours des personnages, tout un rituel. Ce qui différencie le vampire tel que les Romains le conçoivent, c'est que c'est une espèce de génie de la famille. C'est un peu comme les dieux l'art, si vous voulez. Hein. Qu'on peut arriver à domestiquer en quelque sorte si on le respecte. C'est pourquoi la conception que nous avons, nous, du vampire avec sa grande cape et ses grandes dents, s'adaptait totalement.
Il faut savoir par exemple que Vlad Tepes, dans les écoles militaires russes, est étudié pour avoir inventé la guerre psychologique, ou comment combattre avec 6000 hommes, 600 000 hommes. Donc il n'a absolument pas l'image de vampire dans les pays de l'Est. Donc là, on a pu définir en fait l'hystérie collective et l'image du vampire en fait pré-littéraire. Maintenant, on va passer en fait au vampire littéraire pur, c'est-à-dire à partir du 18e, 19e siècle. Alors, on va éviter le 18e siècle. Pourquoi ? Parce que là, c'est la période où le vampire a atteint les journaux, simplement, a atteint le peuple, mais pas encore la littérature elle-même. Et là, on passe au XIXe siècle avec le Fanu et autres, où là, réellement, on entre avec un vampire individuel, une seule personne, qui va atteindre, on va dire, certaines caractéristiques
que vont définir les auteurs,
et
qui va donner une hystérie individuelle.
Mais par contre, monsieur, une question. Par rapport à l'hystérie collective, est-ce que les gens atteints de porphyrie étaient pourchassés et
ont été... Ok, alors d'abord, la porphyrie n'existe pas. Psychiatriquement parlant, et même, enfin, on va dire au niveau médecine, la porphyrie, c'est une hérésie. Ça représente, enfin, ça, c'est censé avoir représenté en tout une dizaine de cas dans l'histoire. Et réellement, ça n'a jamais existé. C'est-à-dire que les cas n'ont jamais été étudiés scientifiquement parlant par des médecins fiables. Aucun rapport médical ne définit la porphyrie comme existant. Et en réalité, actuellement, il y a des tests qui ont été faits, la porphyrie n'a jamais existé. C'est une maladie psychiatrique, ce n'est rien d'autre. Maintenant, on va pouvoir définir en fait donc le vampire individuel. Et pour ça, je vais passer la parole à mademoiselle Cossarieux, qui va nous parler
du vampire individuel.
Moi, par rapport à l'hystérie dans la littérature vampirique, alors je pense surtout à Dracula et à Carmilla. À l'époque victorienne, on ne voulait pas entendre parler de la sexualité de la femme, donc une femme avec la sexualité provocante, par exemple, comme Lucie, tout de suite, y a un rapport à l'hystérie. Donc l'hystérie, comme tu disais, ouais, c'est un trouble mental qui va se définir par quelque chose qui va se traduire par le corps. Donc c'est vrai que dans Carmilla et dans Dracula, on a beaucoup de crises de somnambulisme. Donc le vampire qui vient visiter la femme dans son sommeil, la femme qui vient à lui. Donc je pense que l'hystérie dans ces deux romans se traduit surtout par ça. Et ensuite par des crises un petit peu incompréhensibles pour les hommes, quand ils voient Lucie se tordre dans son lit, en train de battre quoi. Oui, parce que je crois qu'à l'époque, on pensait que ça venait de l'utérus. Hein, ça venait de l'utérus. Voilà.
D'accord. Donc là, en fait, on en arrive à une certaine période où l'hystérie est définie par des phénomènes physiques que l'on retrouve dans les romans qui sont décrits, donc chez Bram Stoker, chez le Fanu, et qui sont causées par une personne, le vampire. Et le vampire tel qu'il est représenté à cette époque-là est très différent. Donc là, est-ce que vous pourriez nous définir simplement
En parlant de vampires, c'était en parlant de Dracula, je pensais à la comtesse Bathory, qui était une petite cousine du célèbre Dracula. Et j'ai envie de dire, ça me fait penser qu'elle pourrait être considérée aussi comme la première hystérique de l'histoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette comtesse qui est la première femme vampire et qui était censée avoir été une tortionnaire, ayant torturé et assassiné des centaines de jeunes filles, c'était avant tout une femme très libérée, une érudite. Et c'est aussi une femme qui, à la mort de son mari, a refusé d'en épouser un autre parce qu'elle s'est dit qu'elle avait la plus grande fortune de son pays. Elle avait un château, elle avait des terres, et elle n'avait pas forcément envie de confier ça à quelqu'un d'autre alors qu'elle était assez intelligente et cultivée pour le gérer toute seule. Et cette femme a réussi quand même pendant plusieurs années à se dire que les Ottomans, ils n'allaient pas passer ses frontières. Elle a réussi à faire en sorte de faire des écoles auxquelles les femmes de son territoire avaient le droit d'accéder. Et les victimes de viols, c'était une période de guerre, il y avait beaucoup de femmes qui étaient violées, n'étaient pas pourchassées et accusées, elles étaient soignées et leurs enfants étaient élevés et éduqués quand même. Et ça n'a pas plu du tout ni à la couronne, qui se disait que la fortune, ils auraient bien mal à récupérer et un petit peu étouffé la voix grandissante de cette femme. Et ça n'a pas plu non plus à l'église. Donc après, elle a peut-être tué des gens, mais je crois que beaucoup de seigneurs à l'époque le faisaient. Hein. C'était peut-être plus choquant quand c'était une femme.
Ça, c'est très important, parce qu'au niveau historique, le mythe du vampire a servi très souvent
comme mode accusatoire pour éliminer quelqu'un de génocide supérieur, sur lequel les minutes du procès démontrent qu'il n'a strictement aucune preuve. Il n'y a aucune famille qui prétend avoir perdu son enfant à cette époque-là dans le parage. Aucun squelette n'a été découvert, aucune trace. Rien. Donc, Gilles de Rais, il n'y avait strictement rien qui l'a fait. Si, il est rentré à cheval dans une église. Mais ça, c'est plus que autre chose.
C'était le premier phénomène.
Voilà, tout à fait, tout à fait. Oui, mais il n'était pas tenu.
Ah.
Ça marche ou pas?
Ah,
allez, c'est bon. Donc Gilles de Rais, le premier phénomène, n'a été accusé de rien, en fait, réellement. Mais simplement, il gênait. Donc c'était le même principe que pour, effectivement, Elisabeth Bathory. C'est le même principe. Non, mais on s'est servi de ça pour l'éliminer.
Parce que le mythe du vampire est tellement ancré dans la population locale que simplement le fait de définir quelqu'un comme un vampire suffisait à inclure une peur telle qu'on l'acceptait tout. Voilà. Donc ça a servi à ça. Mais maintenant, il va falloir nous définir le vampire dans la littérature.
Alors, le vampire dans la littérature, tout d'abord, si je reprends les trois conditions que j'évoquais tout à l'heure, elles ne sont réunies en définitive que dans le roman de Stoker, Dracula, qui est publié quand même 3 ans avant la fin du 19e siècle, hein, alors que la littérature vampirique existe depuis Polidori. Les vampires du 19e siècle sont très hétérodoxes, dans la mesure où ils ne craignent absolument pas la lumière du soleil. Lord Raven, le héros de Polidori, se promène de jour comme de nuit sans être incommodé par les rayons du soleil. Le vampire est mortel, ça c'est tout à fait nouveau. Enfin, on peut tuer un vampire, c'est le cas de vampire. C'est le cas de Wolfen, on peut le tuer, et on peut le faire ressusciter en l'exposant au rayon de la lumière. Alors ça, c'est une idée totalement farfelue que la littérature apporte. Si bien que dans... c'est dommage que Varney le vampire n'ait pas été traduit en français. C'est un roman fleuve où le héros meurt à peu près une dizaine de fois. Il ressuscite à chaque fois parce que une compétissante l'expose au rayon de la lune. C'est un peu gros comme procédé. Mais Carmilla, elle s'installe dans une famille. Elle n'est pas du tout gênée par le soleil. Elle prend son chocolat le matin au petit déjeuner sans aucun problème parce que théoriquement, le vampire ne peut rien ingérer d'autre que du sang. Un vampire qui prend son petit déjeuner, ça c'est pas du tout compatible avec la légende. Donc on peut dire que le vampire littéraire, au début, a pris des libertés énormes vis-à-vis de la tradition légendaire. Et ce n'est que Bram Stoker qui, lui, a passé des heures à la British Library pour lire des ouvrages sur le folklore d'Europe centrale. C'est Bram Stoker qui a essayé de rétablir la vérité. Il fait quelques entorses lui aussi, mais disons que la conception orthodoxe du vampire date de la publication de Dracula. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste de cette conception? Eh bien, les auteurs contemporains, évidemment, ont pris des libertés énormes avec le vampire traditionnel. Mais il reste deux choses, c'est le sang. Donc un vampire, alors en dehors du cas des vampires psychologiques, des vampires psychiques, qui sont un cas tout à fait spécial dont je pourrais parler, mais qui n'ont rien à voir avec le vampire. En dehors du vampire psychique, les vampires contemporains sont débarrassés un petit peu de toutes les contraintes religieuses qui faisaient en particulier dans Entretien avec un vampire, Louis nous explique qu'il ne craint pas les hosties sacrées, l'eau bénite ne brûle plus, il aime bien regarder les crucifix, il entre dans une église, on a complètement démystifier le vampire, mais il reste quand même deux choses, c'est les rayons du soleil, il reste mortel pour lui, et puis c'est l'obligation de boire constamment du sang. C'est les deux éléments qui sont restés. Et puis aussi, la troisième condition, c'est que les victimes deviennent la
Bram Stoker a réhabilité le vampire, on va dire, en simple, comme vous dites, mais En même temps, c'est pas totalement vrai, parce que le vampire, quelle que soit l'époque, a toujours représenté une sorte d'éponge des craintes de cette époque-là dans une population donnée. Donc il y a toujours eu les trois constituantes, mais en même temps on rajoute les craintes de l'époque. Donc il n'est pas plus logique de dire que Bram Stoker, le vampire Dracula, c'est la peur de la révolution industrielle, c'est la peur de l'étranger en Angleterre à cette époque-là, c'est les logements qui augmentent, etc. Donc finalement il est très en phase avec son époque, et il inclut dans Dracula le personnage toutes les craintes de son époque. Donc il correspond exactement au même principe que la littérature appelée de la mythique, qui rajoute les craintes de l'époque contemporaine à une base, on va dire, de l'époque. Simplement. Il n'est pas plus ridicule d'avoir un vampire qui brille au soleil que d'avoir un Dracula qui va fondre à la lumière au final.
Avec le Dracula, il y avait aussi une composante sexuelle qui était très importante. C'était une époque qui était particulièrement conservatrice, avec une sexualité qui était taboue, qui était réprimée. Dracula incarne au contraire une libération très sensuelle. Et sans même parler du film où Gary Oldman incarne ce Dracula très charismatique, mais même dans le livre, il en parle et il est très évocateur. Et dans la Bible, on le retrouve aujourd'hui peut-être avec une montée du puritanisme de notre époque. Et les vampires sont à nouveau des vampires très sexués. Anne Rice l'a en premier incarné avec ces vampires qui sont tourmentés, qui ont une sexualité qui est à fleur de peau. Et la Bicklit en parle énormément aussi. Bon, après, il y a des débordements de sexualité, mais c'est peut-être aussi un défouloir pour notre petite société de plus en plus puritaine. Il y a un gros contraste.
Vous, en tant qu'auteur de littérature actuelle, quelles sont les constituantes, que rajoutez-vous au principe de base du vampire? Enfin, quand on dit principe de base, c'est les trois, enfin, la trilogie qui est expliquée M. Marini. Que rajoutez-vous au vampire, à vos personnages de vampire, pour en fait définir les peurs contemporaines? Qui fait que votre vampire est contemporain?
En fait, je dirais que la Bicklit n'a pas rajouté grand-chose. Elle a peut-être, parce que les vampires comportent de la Bicklit, ont pour moi l'impression de correspondre à peu près à la définition standard. Après, il y a souvent une petite touche de fantaisie qui est rajoutée avec des vampires qui sont des extraterrestres, par exemple. Mais je pense que c'est plus par souci de vouloir se démarquer des petits copains de l'auteur. Mais c'est plus dans le traitement du livre qu'il y a de la nouveauté que dans vraiment la créature en elle-même. Je pense que c'est surtout dans la façon dont c'est écrit, dans la façon dont c'est amené, dont les scènes sont vraiment dans la narration, où ça change. J'ai pas l'impression que le vampire ait beaucoup changé. Bon, à part les vampires extraterrestres, les vampires qui brillent au soleil... Je pense qu'ils ont peut-être dépoussiéré, mais non, la Bicklit n'a pas inventé l'eau chaude, on va dire.
Ah non, mais c'est pas le problème. Donc chaque auteur de Bicklit a pu rajouter ce qui pour lui lui semble essentiel dans un personnage comme celui-ci, et qui se rapporte à l'humanité actuelle.
C'est des vampires qui sont essentiellement urbains, mais je crois que ça fait partie de la composante depuis l'ère industrielle. Je pense que tous les vampires sont devenus urbains. Je pense qu'il y a une opposition entre le vampire et le garou. Le garou incarne peut-être plus les peurs campagnardes. C'est une créature vraiment forestière, c'est une créature de la nature. Alors que le vampire, pour moi, incarne la montée de l'industrialisation et de l'urbanisation. Et c'est un être qui vit dans la foule, qui a besoin de se mêler à la foule. C'est un prédateur urbain. Et peut-être que la Bicklit l'incarne de mieux en mieux, parce que tous les romans de Bicklit, à part peut-être la série du protectorat d'Aurel, qui est un petit peu à part, c'est des vampires qui sont vraiment les prédateurs urbains, et ça se déroule dans des villes qui sont désincarnées. Des fois on mentionne des villes, mais ça pourrait être n'importe quelle ville, parce que ces villes sont tentaculaires, sont répandues, on parle de dédales de rue, de prédateurs, et les vampires incarnent un peu la quintessence du prédateur urbain. On en parlait hier dans une autre table ronde, où les monstres surnaturels finissent par se comporter comme des hommes dans Buffy. La dernière saison où les vampires, l'acte le plus traumatisant pour moi des 7 saisons de Buffy, c'est quand Spike, qui est le vampire un petit peu ultime de la série, essaye de violer Buffy dans sa salle de bain. Et le monstre surnaturel, en fait, son acte le plus traumatisant dans toute la série, c'est quand il se comporte comme un homme malsain. Mais il se comporte en humain. Et en fait, le monstre est devenu humain.
D'accord. Et du coup, vu qu'à présent, le vampire a quelque peu évolué, mais pas tellement dans la littérature contemporaine, comment a évolué le personnage antagoniste du vampire, c'est-à-dire le personnage qui va essayer de conquérir, qui souvent portent des traits d'hystérie individuelle.
Là où j'ai l'impression qu'il y a eu un gros changement, c'est pas dans la nature du vampire, c'est dans la nature de l'humain qui le traque, du chasseur. Avant, c'était des hommes, c'était parfois même un peu des super-héros, des personnages très symboliques qui symbolisaient le mentor, le professeur, le médecin, donc des personnalités symboliques, je me répète. Maintenant, dans la mythique en tout cas, ce sont des femmes. Et ce sont des femmes qui ne sont pas forcément exceptionnelles, à part peut-être certains précurseurs, Buffy, même pas, Anita Blake, qui sont des surhommes pour incarner, pour être plus forte qu'un homme dans cet univers macho. Elles font tout mieux que les hommes. La plupart du temps, les héroïnes de Bitlit sont des femmes banales et qui se retrouvent un petit peu exclues de la communauté, qui ont des comportements qu'on pourrait dire hystériques parce qu'elles sont tout le temps poussées dans leurs limites et elles sont au bord de la démence. Parce qu'elles sont prédateurs, elles sont juges et bourreaux et elles sont seules parce qu'elles sont les seules à pouvoir faire ce métier, à pouvoir traquer les monstres. Et pour traquer les monstres, il faut les connaître. Et quand on, à force de fréquenter les monstres, de les analyser, de les chasser, on absorbe une petite part, je pense, de leur noirceur, on finit par devenir un peu un monstre. Et je pense que c'est ce qui définit le mieux les héroïnes chasseuses de vampires, c'est que ce sont des humaines qui absorbent un petit peu de la folie et de la noirceur de leur proie, et qui pourraient peut-être correspondre à une certaine définition de l'hystérie individuelle. La plupart des séries que j'ai lues ont notamment des passages où elles posent la question de la démence du personnage central. On le voit dans Buffy, on le voit, je n'ai pas d'exemple en tête, mais on le voit dans beaucoup de séries, où le personnage à un moment se pose la question du est-ce que ce que je vis est réel ou est-ce que je ne suis pas folle? Tout simplement, est-ce que je ne suis pas en train de me créer un voile autour de la réalité? En fait, peut-être que les monstres que je traque n'existent pas et c'est moi qui suis folle.
Alors, Morgane, vous avez étudié sur le vampire dans Bayou. Est-ce qu'on peut reporter exactement le même principe sur ce que vous avez étudié?
Autant autour de la figure du vampire que de sa victime et de son chasseur.
J'avoue que...
Non.
No comment.
Le vampire du Bayou, par exemple, a-t-il les mêmes constituantes ou rajoute-t-on quelque chose sur le vampire du Bayou par rapport au vampire actuel occidental?
En fait, le vampire du Bayou, c'est Anne Rice. Donc Anne Rice a complètement redéfini le mythe du vampire dans les années 70. Donc elle a rendu plus humain, une créature à laquelle on peut s'identifier. Le vampire du Bayou est humain et il n'y a pas vraiment de rapport à l'hystérie.
Mais l'évolution sexuelle, en fait, des années 80 à nos jours, a-t-elle fait que la victime du vampire a-t-elle changé ou pas?
La victime du vampire.
On parlait tout à l'heure d'hystérie comme étant
exclusivement féminine. Alors en fait, du coup, avec Bram Stoker, tout ça, on était du point de vue de la victime. Et avec Anne Rice, on est du point de vue du vampire. Donc les victimes deviennent complètement interchangeables. On n'en parle même pas. C'est comme un hamburger, un vampire dans le McDo. Et on n'a aucune compassion pour la victime. Donc oui, il y a un vrai rapport qui change avec la période Buffy Bitlit. Donc l'héroïne défend la victime, mais quand même la victime, on la voit, elle la sauve, elle part en courant, puis on la revoit plus. Et Buffy va finalement plus s'intéresser aux vampires en elle-même qu'à la victime, puisqu'elle va sortir avec deux vampires. Donc oui, je pense que le rapport à la victime a beaucoup changé de nos jours.
D'accord. Et est-ce que l'évolution de la société et de ses maladies, par exemple le sida dans les années 80, etc., a réellement changé la figure du vampire et a amené quelque chose à la littérature ou pas?
Alors le sida, ça a été traité, je pense que ça a été traité dans Nirdark et dans Les Prédateurs, parce qu'on a un vampire dégénérescent qui se meurt avec le personnage de David Bowie. Ce rapport, expérience sur les singes, il y a un vrai rapport à la maladie, genre, très très malsain dans Les Prédateurs. Et dans Nirdark, alors c'est le seul film de vampire où on peut guérir le vampirisme par la science. Donc à la fin, par une simple transfusion, on arrive à guérir du vampirisme qui au final était comme une maladie pour le héros pendant tout le film. Donc c'est évidemment, ça traite du sida.
On a aussi le même traitement. Peut-être que c'est lié avec la série de romans de Jeanne Février-Darcier, où les vampires finissent par dégénérer à force de boire le sang d'humains malades. et l'héroïne de Rouge Flamenco avec son compagnon Johannes cherche à faire des médicaments pour soigner les vampires qui sont dans des mouroirs secrets.
Oui, puis alors il y a une autre solution pour éviter la maladie et la contamination du sida, c'est de consommer du sang synthétique. Donc on imagine, alors je crois que l'une des premières vampiresses qui utilise le sang synthétique, c'est Vampirella, l'héroïne de bande dessinée. Alors tout à l'heure on disait que chaque période avait apporté sa pierre à l'édifice du vampire. Et je crois qu'effectivement, ce que j'ai essayé de démontrer dans ma thèse, c'est que chaque période, en quelque sorte, réinterprète le vampire en fonction des craintes du moment. Donc, par exemple, si le vampire a eu un tel succès dans les années de l'entre-deux-guerres, c'est parce qu'il y a une crise économique qui met au chômage des millions de personnes et qui sape totalement les fondements de la société occidentale. Donc le vampire est perçu à ce moment-là comme celui qui, comme l'étranger. C'est vraiment, il y a véritablement une haine de l'étranger, parce que en période de crise, et malheureusement, nous le savons ici dans ce pays à l'heure actuelle, lorsqu'il y a des crises de chômage endémiques, c'est l'étranger qui est rendu responsable. Parce que l'étranger, dans l'inconscient collectif, c'est celui qui vient prendre le travail des bons citoyens. Et puis ensuite, il y a eu la montée du nazisme et du communisme, et c'est pas un hasard si les vampires de l'entre-deux-guerres, juste avant la Seconde Guerre mondiale, ont soit des noms allemands, soit des noms russes. Je crois que là, ce n'est pas une coïncidence. Après la Seconde Guerre mondiale, on est en pleine guerre froide, et donc le vampire venant des pays de l'Est qui sont sous régime communiste représente justement le communisme qui vient mettre en péril notre civilisation occidentale. Bon, il y a d'autres préoccupations du monde actuel qui passent par l'image du vampire, en particulier la crainte de la drogue. Le vampire est assimilé à un accro d'une drogue. Il doit boire du sang et il a exactement les mêmes symptômes que quelqu'un qui est accro à l'héroïne. Donc ça aussi, c'est intéressant. Et puis, à l'heure actuelle, je crois que le vampire, de toute façon, trouve son terrain d'élection dans les crises que traverse l'humanité. En ce moment, nous sommes en pleine période de crise, sur tous les plans, sur le plan moral, sur le plan social, sur le plan politique. Je ne vais pas trop insister là-dessus, mais ça me paraît évident. Donc, le vampire vient s'intégrer là-dedans. C'est intéressant d'ailleurs que un auteur, là je fais appel aux jeunes auteurs, nous présente des vampires dans le contexte français. Très très intéressant.
Je voulais juste rajouter quelque chose tout à l'heure par rapport aux vampires justement dans la bitlite. C'est que finalement, très souvent, le vampire est dans le contrôle quand même, puisque on voit des chasseuses de vampires, mais souvent, finalement, elles tombent quand même amoureuses d'un vampire. Et finalement, il y a beaucoup de romance avec les créatures surnaturelles. Et le vampire arrive toujours à rester dans le contrôle, que ce soit au niveau sexuel, au niveau de sa soif de sang. Et c'est vrai qu'on se moque beaucoup de Twilight, mais finalement, c'est pas si différent du vampire qui brille, quoi. Et c'est vrai qu'on s'éloigne aussi de cette figure vraiment érotisée, charnelle, ce lien entre le sang et le sexe. C'est vrai qu'on s'en éloigne de plus en plus, même si c'est censé être des méchants vampires, on les traque, mais ils sont peut-être pas si méchants que ça.
Bon, je voudrais ajouter quelque chose à propos de Twilight, puisqu'on a cité Twilight. c'est que Twilight représente un retour à l'amour courtois. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, vous savez que l'homme et la femme étaient une épée entre eux, se mettaient nus et ne se touchaient pas. Eh bien, c'est ce qu'on nous raconte pendant les trois premiers volumes de Twilight. Le vampire, héros de l'histoire, Edward, ne veut pas contaminer sa belle, donc il ne touche pas. Il a peur de la classer. Et ce n'est que justement le quatrième volet me paraît le plus improbable dans la mesure où il se passe. Mais en fait, c'est véritablement. Alors, le problème, c'est qu'avec le personnage d'Edward, on a un personnage qui est complètement édulcoré parce qu'il ne craint plus la lumière du jour. Il ne consomme plus de sang humain, il va chasser de temps en temps, mais il a réussi à trouver d'autres moyens. Alors on peut se demander à Philippe, est-ce qu'il est encore un vampire, quoi?
Il reste un vampire si on rajoute le principe que l'auteur, par exemple, est en hormone,
oui.
Elle rajoute toutes les petites
voilà.
de ses pensées, de ses volontés, ouais. Dans le personnage. Ouais.
Moi, je vois dans ce roman, j'ai peut-être un esprit un peu tordu, mais je vois dans cette série de romans un prolongement naturel des années Bush aux États-Unis. Oui,
pardon. On parlait du lien entre le sang et le vampire qui incarne une sexualité débridée. On parlait du contrôle et on parlait aussi des maladies, des MST et des vampires qui commencent à en attraper. Je crois que c'est dans la communauté du Sud, il y a une petite anecdote amusante, on parlait des moyens pour les vampires de ne pas être contaminés. Dans la communauté du Sud, je crois qu'il y a aussi des capotes accro. Ils appellent ça des capuchons. Et ça permet aux vampires de mordre leur partenaire de lit sans boire leur sang, sans échanger de fluides. Un petit peu une façon de rester en contrôle, une façon aussi d'édulcorer le sexe et de faire une métaphore particulièrement fine sur certaines choses dont on ne parle pas.
Très bien, on va finir là-dessus. Et bien, donc, on vous incite à voir les auteurs sur leur propre stand, à les faire dédicacer. Vous voyez, ils sont pleins d'humour et ils sont à votre disposition.
Corséane.
Ça, c'est ce qu'il avait dit. Donc voyez Sophie là-bas pour ce qui est du corps et âme, les autres auteurs pour les dédicaces, et donc passez une bonne journée.